13h15 exactement, l'émission On en jase à Boulevard 102. On va aller rejoindre prochainement notre excellent chroniqueur Rémi Villemur. Juste pour vous rappeler qu'on est en attente de nouvelles de Claude Villeneuve. On vient de parler avec Sam Ahmad, accusation de Claude Villeneuve à l'endroit de Sam Ahmad, à l'effet que Sam Ahmad lui aurait dit lors du lancement du livre de Régis Labombe au Théâtre Le Diamant, fais attention à tes critiques contre moi parce que tu as deux belles petites filles. Et Sam Ahmad lui a raconté, Pascal, qu'il avait dit à Claude Villeneuve, il est temps de faire de la politique autrement, t'aimerais pas ça être sali dans les médias, t'as deux belles petites filles.
D'élever le niveau, c'était sa demande, en disant, écoute, là, si tes enfants entendent ça, de ce qu'on a compris entre les lignes de notre dernière entrevue, notre dernier entretien avec Sam Ahmad dans les cinq dernières minutes, faut le dire, c'est là, oui. Là. Et ce qu'il dit, c'est, je voulais élever le niveau de la politique en se disant, ça sert à rien, nos familles écoutent, là. Est-ce que vraiment on fait cette petite politique basse, point d'interrogation.
Exactement. Parlant d'élever le niveau de la politique, on en parle énormément aux États-Unis, Rémi Villemur. Et là, autre revirement de situation dans le dossier du meurtre de Charlie Kirk, c'est Jimmy Kimmel qui est suspendu indéfiniment par le réseau ABC après un commentaire qu'il a fait en onde concernant justement le meurtrier de Charlie Kirk.
Oui, puis il a perdu son travail là, jusqu'à nouvel ordre. Oui. Vous savez, je veux qu'on parle aujourd'hui tous les trois des grands pièges qui existent quand on fait ce métier-là tous les trois, de donner une opinion tous les jours, de défendre une certaine façon de voir le monde. Depuis des années, moi, je dénonce une certaine gauche qui utilise les campagnes d'annulation, utilise le chantage, utilise les bonnes mœurs pour faire valoir leur point de vue. Puis je me concentrais pas sur la droite parce que je la voyais moins active dans ce domaine-là, hein, dans le domaine de l'annulation. Et là, je trouve qu'il faut passer par-dessus l'un des plus gros pièges qui est celui de l'incohérence. C'est-à-dire que ça serait tellement plus facile pour moi aujourd'hui de faire comme d'autres et de dire, de mettre des nuances, de dire « Ah non, c'est pas de l'annulation, c'est une décision commerciale, c'est pas une annulation, c'est autre chose. » Ben c'est une campagne d'annulation.
Vois ça comme une campagne contre la liberté d'expression?
Ben tout à fait. Regardez, je vais vous citer Donald Trump. Donald Trump, il est actif sur Truth Social, c'est son réseau social. Il a dit « Excellente nouvelle pour l'Amérique en parlant de l'annulation du spectacle de Jimmy Fallon, du spectacle de son émission. » Il a dit « Ils ont enfin fait ce qui devait être fait. » Donc, hein, il y a des... Là, quand on met de la pression pour annuler quelqu'un, c'est quand on part du principe qu'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des comportements à adopter dans une société. Donc, quand il dit « ça devait être fait », c'est que finalement, le fait que Jimmy Fallon ait exprimé une opinion qui n'est pas la sienne...
Rémi, excuse-moi, je te reprends, tu as dit Jimmy Fallon à deux reprises, c'est Jimmy Kimmel, pour pas qu'on...
Jimmy Kimmel, excuse-moi, ouais. Ça n'a rien à voir avec... J'ai toujours confondu ces deux gars-là.
Il n'y a pas de problème.
Oui, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, après, il a dit « son show is cancelled ». Il a dit ça en majuscule sur son réseau social. Donc là, on peut commencer à tourner autour de ce sujet-là de différentes façons, de dire « c'est pas une campagne d'annulation, c'en est une, le mot est exprimé par la droite ». Donc, il faut être cohérent. OK, si on est contre les entraves à la liberté d'expression, ben on l'est tout le temps. Si on est pour la liberté d'expression, on l'est tout le temps. Est-ce que la blague de Jimmy Kimmel était une blague appropriée? Je ne pense pas. Est-ce que c'était une blague qui avait, disons, un bon timing? Je ne pense pas non plus. Mais la liberté d'expression, c'est ça. C'est de défendre des propos qui ne sont pas, évidemment, diffamants, calomnieux ou qui sont des incitations à la haine. Tout ce qui n'est pas ça, ça rentre dans la liberté d'expression.
Ouais, d'ailleurs, la blague n'était pas appropriée parce que le public n'a même pas réagi, n'a même pas ri, alors que le public se mordait de rire lorsque Jimmy Kimmel, justement, parlait d'un fameux « truth » de Donald Trump sur Truth Social concernant les bottées d'envoi dans la NFL.
Oui, tout à fait. Puis tu sais, je comprends par contre, là, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, je peux comprendre qu'il y ait eu un sentiment d'écœurement de la part d'une certaine droite depuis des années de voir de ses porte-paroles à être annulé, de ses porte-paroles à être, voir leurs émissions être suspendues. Et là, maintenant, on se dit, enfin, le backlash revient, hein, le karma frappe. Moi, je comprends ce sentiment-là, mais le défi et la vraie forme de courage, c'est de rester cohérent, puis c'est de défendre même nos ennemis. Hein. Tout le monde revient avec la phrase de Voltaire, là, qui est faussement appropriée, d'ailleurs attitrée à Voltaire, « Je vais défendre la liberté d'expression, même celle de mon ennemi, donc jusqu'à ma mort. » Donc, c'est ça aussi le vrai défi là-dedans. Puis, j'ai trouvé que beaucoup de gens qui étaient des porte-parole de la liberté d'expression à tout bout de champ. Et rapidement, cette semaine, depuis 2 semaines, on les voit quand même s'effriter. On les voit là qu'ils défendaient bien juste leur liberté d'expression, la liberté d'expression de leur camp.
Je suis d'accord avec toi qu'il faut se remettre en question constamment parce qu'assurément, on est biaisé dans certains spectres. Je veux dire, on vient tout le temps avec nos angles morts. Il faut en être conscient. Il faut être capable de les observer, de les identifier, de savoir dans quel monde on a vécu aussi. Puis de relativiser un peu notre expression émotive quand il vient le temps d'avoir justement des affaires dans l'actualité ou encore des gens qui ne sont pas en accord avec nous, lesquelles les positions nous confrontent un peu. Je pense aussi qu'il y a un autre enjeu à pointer du doigt en ce moment dans tout ça, c'est à quel point c'est sensible, c'est fluide, mais c'est également très... La ligne est très mince entre les discours où les gens ne sont pas en accord avec nous, les discours de débat, les discours d'opinion, puis un genre d'appel à la haine qui est là, qui est stagnant dans nos sociétés. Puis c'est comme si les gens ne sont pas toujours capables, nous y compris, de totalement savoir qu'est-ce qui est un discours de haineux sur lequel on doit freiner peut-être un élan versus qu'est-ce qui est une opinion et qui se vaut même si ça ne nous correspond pas et ça ne correspond pas à notre éthique, à nos valeurs, à nos mœurs.
Ah, mais tout à fait, c'est un très bon point. La ligne est mince. D'ailleurs, je pense que ceux qui se sont réjouis ou ceux qui ont expliqué la mort, hein, ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, ils ont dit « moi, je dénonce des meurtres ». Mais il faut savoir que quand on tient un discours comme ça, ben, tu sais, c'est pas très surprenant qu'on finisse de même. Ben ça, c'est-tu un discours haineux? Alors moi, je pose la question parce que c'est proche, en tout cas, là. Si c'en est pas un, là, c'est
très... Je suis pas raciste, mais... Tu sais, on l'entend, ça aussi.
Oui, mais ça, c'est une chose. Les gens qui ont mis un « mais » au tout début. Mais quand vous êtes en train de justifier un meurtre... Je pense qu'on est dans la catégorie des discours haineux, là. Je sais que c'est écrit dans la charte, c'est écrit dans le code criminel, c'est très bien défini. Mais entre vous et moi, la haine, c'est un petit peu ça, là, quand on donne un sens à un meurtre puis qu'on dit que quelqu'un l'avait cherché. Puis je pense que le point essentiel dans cette histoire-là, c'est l'idée qu'on forme des camps, qu'on forme des clans. Et ça, c'est le gros défi. Je dis pas qu'on devrait tous vivre chacun de notre bord, pas appartenir à une équipe, donc... Je ne suis pas du tout ce genre de personne-là. Je pense qu'au contraire, il faut s'unir, puis il faut s'unir avec nos amis, avec nos familles, mais défendre l'indéfendable parce que c'est dans notre camp que cette fois-ci, le tort est peut-être et réside. Ça, c'est très, très, très imprudent. Puis c'est ça qui fait en sorte que tout s'explique, que tout se relativise, alors que tout ne s'explique pas, tout ne se justifie pas, tout ne se relativise pas.
Et c'est là que le facteur émotif est important vraiment à prendre en compte, nos angles morts. Puis Jeff et moi, on avait une discussion il y a quelques semaines sur la cancellation dans notre propre vie. Demain, notre cousin, notre cousine, notre meilleur ami, notre artiste préféré commet des gestes répréhensibles, voire criminels. Est-ce qu'on les défend? Parce que, mon Dieu, on connaît une autre facette de cette personne-là.
On disait, ben voyons, ça peut pas être mon Éric qui fait ça.
Ben, Éric Lapointe, dans ce cas, c'est pas mon Éric qui avait coupable. Là. Il n'est pas coupable, il fait juste chanter qu'il est coupable. Mais ça, c'est l'angle mort par excellence dans ces situations-là.
Puis Rémi, comment qu'on fait pour rapprocher ces deux camps-là? Là, je vais prendre l'exemple des États-Unis parce qu'on se rend bien compte que là, il y a vraiment le mouvement MAGA avec Donald Trump et le mouvement très extrême-gauche qui prennent de plus en plus d'ampleur. On fait comment pour les rapprocher? On dirait que j'ai pas de solution, moi.
Ben, écoute, moi, je vais te dire quelque chose de grave pour commencer, puis après, il y a une solution. Pour les rapprocher, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Puis ce qui se passe, il y a trop de gens qui disent ben les gens sont polarisés, les gens sont tannés.
Ils sont radicaux.
Non, il y a une guerre culturelle. Il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus. On est en guerre culturelle. Le progressisme contre une idée plus conservatrice du monde, ça existe aux États-Unis depuis les années 60. Ça a remonté, ça a été tu, ça a été nié. Et là, maintenant, on commence à comprendre parce qu'il y a des meurtres. Hein, le fait que Donald Trump ait été victime de 2 tentatives d'assassinat, il fallait comprendre ce qui se passait là. Il y a une guerre culturelle. Même chose pour Charlie Kirk. Alors, à partir du moment qu'on accepte l'état des lieux, ça ne veut pas dire qu'on dit on est prisonnier de ça puis on n'en sortira jamais. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Hein, c'est comme un couple qui se chicane tout le temps puis il n'a pas encore compris que peut-être qu'ils ne sont plus faits l'un les uns pour les autres. Le jour où ils vont le comprendre, finalement, ils vont redescendre en cuisine puis ils vont prendre un café puis ils vont se regarder puis ils vont dire bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est peut-être mieux d'arrêter ça là. Puis là, soudainement, le ton a baissé.
Ouais, calmement.
Oui. Donc, évidemment, je ne veux pas qu'on reste en guerre culturelle, mais il y a une guerre culturelle. Donc, s'il y a une guerre culturelle, il faut peut-être qu'on donne la permission à la droite d'occuper un plus grand rôle dans les universités, par exemple. On sait que les universités sont chasse gardée de la gauche. Il y a un sentiment d'injustice qui habite beaucoup d'étudiants qui vont aux études supérieures et qui ont l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas pouvoir décrocher des postes de professeur, de ne pas pouvoir devenir eux aussi des tuteurs et des passeurs. Donc peut-être qu'il faut aller là. Peut-être qu'il faut aussi slacker. Je pense que ça a très bien commencé, le slackage sur le wokisme, mais là, on voit que Donald Trump est aussi pire, honnêtement, parce qu'il en appelle à l'annulation. Lui aussi, il parle de liste de gens. Il encourage les entreprises à foutre dehors du monde. Donc, on est allé aussi loin. Le balancier est allé aussi loin. Et la solution, elle se trouve au milieu. Et peut-être qu'effectivement, il y a juste du temps qui va nous permettre de retrouver l'équilibre comme ça.
Est-ce que tu crois que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient être une bonne période où on va justement, dans le temps, venir se rapprocher et qu'on va faire un exercice démocratique qui va permettre à certaines personnes de comprendre davantage là, ce qui est une société qui doit vivre ensemble?
Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire reposer sur les élections de mi-mandat là, une certaine importance parce que je pense pas que ça va passer par là. Mais par contre, il faut juste se rappeler que quand Donald Trump a été la cible de la première tentative d'assassinat contre sa personne, il a levé le poing au ciel, il a dit fight, fight, fight. Et 3 jours plus tard, il donnait des conférences, il donnait des discours où il avait baissé beaucoup le ton, où il en appelait moins à une vengeance, moins à une revanche, moins finalement à se battre. Et j'espère, et là je trouve que Pascal commence à avoir raison parce qu'on a eu cette discussion-là l'autre jour sur Trump qui en appelait peut-être pas à l'accalmie, à un pacifisme. Là, je le trouve tout aussi belliqueux, presque plus d'une semaine plus tard. En fait, ça a fait une semaine, là, il y a quelques heures, là. Donc, c'est à lui de baisser le ton. Je ne dis pas de changer de sujet et d'orienter l'attention ailleurs, mais effectivement, si on s'en va en élection de mi-mandat avec le fantôme de Charlie Kirk en arrière, c'est le pire qui peut survenir.
C'est le pire scénario, puis si tout est dans le leadership, moi je veux saluer un leadership très important au niveau des États-Unis, surtout de la gauche, c'est Bernie Sanders, qui est une des grandes facettes de gauche, et lui il a pris la parole la semaine dernière et qui disait ça, c'est inacceptable, on ne tue pas ses ennemis de parole, ses ennemis politiques. Il a appelé à un calme, il a pointé du doigt les tensions actuelles, les gens un peu plus de gauche qui tombent dans l'extrême par les motifs, par l'envie que leur pays revienne à ce qu'ils ont peut-être un petit peu plus connu à un moment ou à un autre, mais leur pays, comme n'importe quel, est changeant selon les générations, les points de vue, ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je pense qu'autant, si on y va avec une axe politique, là, autant de gauche que de droite, il nous faut des leaders forts qui vont dénoncer ce que tu disais d'entrée de jeu dans ta chronique aujourd'hui, Rémi, qui est justement de regarder où est-ce que notre affrontement en termes d'idées s'arrête, mais aussi où est-ce qu'on doit comprendre notre ennemi, tiens, d'opinion de l'autre côté, puis en faire un genre de respect commun.
Oui, puis j'ajouterais juste une chose sur Bernie Sanders. Il vient d'affirmer qu'il y a un génocide à Gaza.
Oui.
C'est quand même extrêmement courageux et peut-être même téméraire pour un juif américain, parce que Bernie Sanders est un juif américain. Donc, c'est un mois de septembre assez spécial pour lui. Sa prise de position à la suite du décès de Charlie Kirk et une prise de position de la sorte dans le dossier
Ça,
israélo-palestinien.
effectivement, ça fait juste 5 heures de ça. Premier sénateur américain à accuser Israël de génocide à Gaza, et ça aussi, ça va diviser, mais comme tu dis, c'est du courage politique. On ne peut pas y enlever. Je ne sais pas si c'est dû à son âge, sa sagesse, plus rien à perdre, puis qu'il
Ouais.
se dit, ben, si je peux jouer un certain rôle, il décide de le faire, mais bon, il fait jaser.
Clairement qu'on salue les initiatives de Bernie Sanders, il n'y a pas de doute là-dessus. Rémi Villemur, on te laisse partir pour le 99.5 Montréal. On t'écoute ce soir de 18h à 19h. Merci pour cette excellente chronique et on se reparle mardi prochain.
Oui, merci à vous deux. Bye-bye.
Salut.
Salut Rémi. Alors, c'était Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et également les week-ends. Pascal, on fait une courte pause et par la suite, on va parler avec une personne extraordinaire.
Quelque chose de positif, là.
Ouais, il s'appelle Jimmy Pelletier. Il fait le tour du monde en vélo à main. 40 000 kilomètres. Il amasse de l'argent pour justement les personnes qui vivent avec un handicap et qui veulent faire du sport pour adapter la vie.
Vélo à main, ça veut dire que c'est le vélo qui est couché, qui a
Qui
deux
est
roues
couché.
derrière sa tête,
Ouais,
là,
puis là, tu sais,
puis
qui brasse les bras.
avec ses bras. Oh là
Ouais,
là là là.
40 000
Qui pagaie?
kilomètres, pensionnaire. Ouais,
Aïe,
40 000
aïe,
kilomètres. Après, on va le rappeler, une traversée du Canada. Il y a de cela quelques années.
aïe. Incroyable.
Pas pire, hein? On parle avec Jimmy Pelletier immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à Boulevard 101 à l'émission On en jase. On en jase.